Ok, je vous propose de commencer. Bienvenue à toutes et tous pour cette session qui s'intitule donc L'école forme-t-elle à l'agilité? Je m'appelle Damien Roquel et je vous propose de réfléchir tous ensemble un petit peu à cette question. Avant de commencer, on va remercier les sponsors qui permettent à l'événement de se tenir, qui me permettent d'être là aujourd'hui parmi vous. Donc, il y en a un bon paquet. Le Printemps Agile, ça génère pas mal de sponsors. Je suis du Mans, je suis un peu jaloux. Voilà, clairement, on a du boulot. Alors, en fait, aujourd'hui, on est en 2019 après Jésus-Christ. Et toute la Gaule est envahie par Agilitum. Toute la Gaule, enfin, pas tout à fait. Agilitum est là, mais il y a encore un petit village qui résiste à l'envahisseur. Et ce petit village, il s'appelle Educatum Nationalum. Nationalum, voilà. Et du coup, la vie n'est pas facile pour les garnisons et les camps retranchés d'élèves et d'enseignants de Maternum, Elementarum, Collegium, Lyceum et Universitum. Imaginons un petit instant que vous soyez les élèves de ce fameux village. Donc moi, je vais être votre barde, parce que c'est le barde qui enseigne, et je suis le barde Rigidum. Et donc, je vais faire comme dans une vraie école rigide, je suis là. Et je vais vous demander un petit exercice, c'est pour ça que vous avez tous un bristol et un stylo. Et la leçon pourrait commencer comme ceci. Je veux que chacun, sur votre bristol, vous écriviez la caractéristique fondamentale d'une école agile. Vous avez 2 minutes pour ça. Ça se fait en silence et sans copier les uns sur les autres. Et je vous demande de faire le truc, s'il vous plaît. Donc 2 minutes, donnez la caractéristique fondamentale d'une école agile. Vous l'écrivez sur votre papier. Vous avez 2 minutes en silence sans copier les uns sur les autres, s'il vous plaît. Je remets la consigne en silence, sans copier les uns sur les autres, en 2 minutes. Allez, il vous reste 30 secondes, après il faudra poser vos stylos. C'est terminé. Merci pour cette expérience en tant qu'élève de l'école de Rigidum. Et on va essayer de revenir à notre réalité et d'imaginer quelle aurait pu être la suite à cette histoire. Déjà, je vais plus me mettre là parce que Rigidum est sorti. Mais comme je suis quand même résistant encore et toujours à l'envahisseur, il serait certainement passé ce que je vais vous décrire. C'est-à-dire que je vous aurais déjà demandé à tous de mettre votre nom et votre prénom sur votre copie et de me rendre les copies, toutes. Je les aurais ramenées chez moi, puis j'aurais pris le temps de les corriger. Et dans 2, 3 semaines, éventuellement, je vous aurais ramené les copies. Alors ça aurait tout de suite plusieurs conséquences. La première, c'est qu'en tant qu'élève, ça vous aurait mis en stress pendant 2, 3 semaines de savoir, est-ce que j'ai réussi? J'ai pas réussi. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai pas compris? La deuxième conséquence, c'est que, n'ayant pas votre tour, Ben, moi, j'aurais continué d'avancer mes leçons, sans même savoir si vous aviez acquis les bases que je venais d'essayer de vous faire, enfin, d'évaluer avec vous. Et la troisième, qui est importante pour Rigidum, c'est que ça glorifie encore le fait que c'est moi qui sais et que vous êtes là pour apprendre ce que moi j'ai à vous dire. Et puis, il serait venu le fameux jour J, vous savez, celui où Rigidum, le barde, le prof, rend les copies. Et ce jour-là, ben Rigidum, il aurait commencé certainement comme ça. Bon, comme d'hab, le travail qui a été fourni est insuffisant, clairement. J'ai l'impression que la grande majorité d'entre vous ne travaillent pas suffisamment. Je ne vois pas comment, en continuant comme ça, vous pourrez avoir votre diplôme. Moi, je suis dépité. Et puis, ben Rigidum, il aurait planifié, comme il fait à chaque fois depuis des années, la liste de toutes ses copies en les classant dans l'ordre croissant des notes. C'est-à-dire qu'il va commencer par celle de Dylan. Dylan, le petit gars qui est au fond de la classe, là-bas, qu'on connaît tous. Et Rigidum, ce qu'il aime bien, c'est faire valoir qu'il a travaillé et qu'il a évalué les élèves. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la copie de Dylan et il va lire l'évaluation personnelle qu'il a marquée à Dylan, le petit mot doux qu'il lui a mis. Mais c'est tellement plus impactant et fort de le dire à tous, et il commencerait comme ça. Bon, ben Dylan, ben comme d'hab, c'est mauvais. Voilà. Ce que je constate, c'est qu'encore une fois, t'as pas bossé. Moi, je sais plus quoi faire de toi. Qu'est-ce que tu vas devenir? Puis il aurait continué. Puis ça monte un petit peu. Puis là, il arrive sur un binôme. Ah, Jonathan et Jennifer. Les références, les plus jeunes, ça va être chaud, mais voilà. Et Jonathan et Jennifer, il leur dit, alors moi, j'ai un souci avec vous. Il y a trop d'erreurs communes sur votre copie. Donc moi, j'en déduis une chose, c'est que vous n'avez pas respecté la consigne, vous avez copié les uns sur les autres. Et dans la vie, copier les uns sur les autres, ça ne vous apportera jamais rien de bon. Donc pour ça, je vous mets que la moitié des points et j'espère que ça vous servira de leçon. Puis il aurait continué. Puis là, il arrive à la dernière copie. Oh, celle qui a fait que son dimanche soir s'est bien passé. Ouh, super. Et là, c'est la petite Charlotte. Et il prend la copie. Ah, oh, Charlotte. Oh, ma brave Charlotte. Mais si t'étais pas là, mais qu'est-ce que je ferais? Je me lèverais plus pour venir en classe. Charlotte, je vois que tu as travaillé tout le week-end. Tu t'es investi, c'est soigné comme travail, comme d'hab. Tous les autres là, il serait peut-être temps de prendre exemple sur Charlotte. Vous voyez le travail qu'elle fournit? Charlotte, elle réussira, elle sera brillante plus tard. Voilà un petit peu comment Rigidum il aurait pu faire. Heureusement, ce genre de situation, ça arrive jamais. On le sait bien. Et certainement pas dans les camps maternum, elementarum, collegium, lyceum et universitum. Ça se produit jamais, ça. Aucun d'entre nous n'a jamais connu ça. C'est vrai que ce serait insupportable, en fait, l'idée d'une école pareille. D'autant qu'en analysant les conséquences de la petite scénette qui vient de se jouer, on pourrait aller un petit peu plus loin et réfléchir à, tiens, qu'est-ce que ça va engendrer? Eh bien, le petit Dylan, une fois de plus, il se fait humilier devant tous ses camarades. Et du coup, une fois de plus, il se sent vraiment pas bien. Et une fois de plus, on explique à toute la classe que c'est lui le mauvais. Et la classe, du coup, elle va en faire son souffre-douleur. Et du coup, à partir de maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ira pas, c'est la faute de Dylan, il est là-bas. Voilà, quelque chose va pas dans la salle, c'est Dylan. Et puis, bah, qu'est-ce qui va se passer avec Dylan? Il risque de développer une phobie scolaire. Puis un jour, il ne voudra plus mettre les pieds à l'école. Ses parents seront désemparés. Puis il va quitter le système. Puis il va errer de petit job en petit job. Et puis toute sa vie, il va porter ce gros menhir qu'on lui a mis sur le dos. T'es un mauvais. Voilà. Le risque avec Dylan, c'est ça. Avec Jonathan, le risque est différent. Il risque de rentrer chez lui et il va se faire défoncer par son père. Comme ça, au hasard. Au hasard. Son père va lui dire, mais c'est pas possible, etc. Comment ça se fait? T'es un bon à rien, machin. De toute façon, je vais prendre rendez-vous avec Rigidoum et je vais discuter avec lui. Et donc, il va voir Rigidoum, le papa, il discute avec lui. Et après quelques minutes d'échange, il se barre et il rentre chez lui et il dit à son fils, bon, laisse tomber, de toute façon, lui, c'est un con. Donc, laisse passer l'année, ça ira mieux. Le risque de tout ça, c'est que pour Jonathan, ce soit super décourageant de continuer à travailler dans l'année parce qu'il est jugé comme étant un élève qui, de toute façon, est blacklisté. Et s'il décide de plus bosser, le risque en plus, c'est que Rigidoum, au prochain conseil de classe qui lui permet de passer au barde suivant, ils disent au barde, bon alors lui, je laisse tomber, il fout rien, de toute façon, c'est un tricheur, et en plus, son père, c'est un idiot. Parce que le père, il ne s'est pas arrêté là. Comme il n'était pas satisfait de Régidoum, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'inspection académicum. Et là, l'inspection académicum, qui ne comprend pas ce qui se passe, elle fait un truc, oh là là, qui va mettre Régidoum hors de lui. Elle envoie un inspecteur dans sa classe. Un inspecteur, quelqu'un qui va venir juger ce qui se passe. Alors que Régidoum fait de son mieux. Donc ça, c'est l'histoire de Jonathan. Pour Jennifer, c'est un peu différent, en fait. Jennifer, elle a beau travailler, elle a beau pas travailler, ça change pas grand-chose. Ses parents, ils sont en pleine séparation. Ça va pas. Elle a vraiment autre chose en tête que l'école. De toute façon, tout le monde s'en fout. Et le week-end chez elle, elle peut même pas bosser tellement ses parents se disputent. Donc ça changera pas grand-chose ce qui vient de se passer. Et puis, bah, Sarah, elle va devenir la chouchou de Régidoum. Et Charlotte, pardon. Ouh là là. Vous voyez, hop. C'est parce que j'ai connu une Sarah qui... Enfin, ouais. Et donc Charlotte, mais c'est bien, vous suivez. Déjà, je vous ai pas perdu. Charlotte, elle devient la chouchou de Régidoum. Et à partir de là, du coup, Régidoum, il est content, il est satisfait. Il voit qu'il y a quelqu'un qui suit. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il la met en avant en permanence en disant « Regardez ce que Charlotte a fait. Regardez comme elle fait bien. » Et ça va marginaliser Charlotte dans la classe. Ses copains vont commencer à dire « toi, t'es l'intello de service, etc. » Et on va la laisser sur le côté. Et là, elle a plusieurs choix dans sa vie, Charlotte. Soit elle décide, inconsciemment ou pas, d'accepter d'être la meilleure avec le risque de devenir et se sentir un petit peu trop supérieure. Soit elle encaisse, elle dit rien, puis on verra ce que ça donne plus tard. Soit elle se dit « en fait, je vais arrêter de bien bosser parce que j'en ai marre d'être pointé du doigt. Et ce que je voudrais, c'est me fondre dans la masse. » Parce que là, on va dire que Charlotte, elle a 13-14 ans, l'âge où on a vraiment envie d'être différent des autres, quoi. Donc voilà ce qui pourrait se passer. Alors le tableau est un peu noir, évidemment, je pousse un petit peu. Mais ça aurait pu être autrement. Si Régidoum, il avait accepté de rencontrer Agilitum et de l'écouter, de discuter avec lui. Et qu'est-ce qui aurait pu se passer, du coup? Peut-être déjà revenir à une police d'écriture plus lisible. Voilà, ça c'est joli, mais c'est bien d'écrire bien à l'école, mais en relisant, je me suis dit que c'était pas terrible. J'ai pas dit joli, j'ai dit juste plus lisible. Puis il aurait discuté avec Agilitum. C'est pas facile d'accepter de discuter, de se poser, de discuter. Et Agilitum, il lui aurait expliqué les valeurs qu'il avait. La première, c'est donc les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. La deuxième, c'est un logiciel qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive. La suivante, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Et enfin, la suivante, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Pas sûr que ça parle à Régidoum, là. Dans ce langage-là, c'est un petit peu compliqué à comprendre pour lui. Donc ça pourrait être peut-être traduit dans un langage un peu plus approprié et donner, par exemple, les individus et leurs interactions de préférence aux processus et aux outils. C'est-à-dire que plutôt que de vous évaluer en me rendant tous les copies, je pourrais peut-être agir autrement avec vous, les élèves, et valoriser l'interaction entre vous pour vous faire réfléchir. Des prises de décisions individuelles et collectives de préférence à des retranscriptions de théorie. Je peux vous abreuver de contenu, ou je peux vous mettre face à des situations qui vous amènent à réfléchir et à vous de décider et d'en discuter. La collaboration enseignant-parent de préférence à des instructions et règlements. Plutôt que de passer par un cahier dans lequel je mets des instructions ou des petits trucs qu'on colle, etc., des mails qu'on envoie, peut-être essayer de développer cette relation qu'a manqué à Régidoum pour discuter avec le papa de Jonathan. Et la réponse au changement de préférence au respect d'un plan. Accepter le fait que quand, en tant que Régidoum, je fasse court, je ne sois pas certain d'où j'accepte de ne pas être certain d'où on va arriver. Voilà. Je m'adapterai à ce qui se passe. Alors, ce langage approprié, c'est pour moi qu'il est écrit, pour le coup, je vais citer. J'ai l'aimable autorisation de son auteur de le citer. C'est un prof de français qui s'appelle Christian Denartigue, qui a un blog, pédagogieagile.com, et qui s'est inspiré des valeurs de l'agilité pour essayer de les retransposer dans le milieu scolaire. Après, il aurait pu essayer de les mettre en application, par exemple, Régidoum, en faisant plusieurs choses. La première, c'est plutôt que de vous poser une question fermée, citez-moi la caractéristique fondamentale d'une école agile, c'est qu'est-ce qu'une école agile selon vous? Déjà, on change un petit peu de façon. J'ai pourquoi je serais le seul à connaître la caractéristique principale de l'école agile. Voilà, j'accepterai que vous puissiez en discuter les uns entre les autres, les uns avec les autres. Ensuite, je pourrais vous mettre en situation d'échange et d'interaction entre vous sur les réponses que vous avez et vous amener à réfléchir à ça. Et du coup, ça, on va le faire ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est que votre Bristol, eh ben, vous allez vous le passer. Et dès que vous en récupérez un, vous en redonnez un autre. Vous devez toujours avoir un Bristol et vous les faites circuler là, dans la salle comme vous pouvez. Je vous laisse les échanger librement entre vous. Hop, dès que vous en avez un, vous le donnez à quelqu'un d'autre, etc. Alors, comme on n'est pas dans l'école de Rigidoum, on a le droit de se lever. Hein, voilà, ça, c'est important. N'hésitez pas. Faites-les circuler histoire de ne pas avoir le vôtre près de vous. Ça sera mieux pour la suite. Ok, c'est bon, vous gardez le Bristol que vous avez dans la main. Et je vous invite à constituer des groupes de 5. Je vous laisse vous débrouiller, vous former des groupes de 5 dans la salle. Est-ce que tout le monde est dans un groupe de 4, 5 ou 6 personnes? Si ce n'est pas le cas, levez la main, faites-vous connaître. Alors, ce que je vous demande du coup, c'est vous allez dans chaque groupe lire la caractéristique fondamentale que vous avez récupérée sur la carte, qui n'est donc certainement pas votre carte. Et je vous demande par groupe de définir quelle est la carte la plus pertinente. Ok? Vous en discutez. Vous avez 2-3 minutes pour définir par groupe quelle est la carte la plus pertinente. Je vous laisse faire. Ok, alors pour la suite, je vais mettre un peu le bazar dans l'orga, c'est-à-dire que la suite va se passer debout. Je vous explique, mais ça se passera debout. On imagine, je suis membre d'un groupe, on a décidé que c'était ma carte, qui était la carte que j'avais récupérée, qui était la plus pertinente. D'accord ? Donc avec moi, j'ai 4-5 personnes qui sont avec moi. Je vais à la rencontre d'un autre groupe. Et l'idée, c'est que notre groupe, on va lire la carte la plus pertinente à l'autre groupe, ce groupe va nous la lire aussi, et tous ceux qui n'auront pas de carte dans les mains, ceux dont ce n'était pas la carte la plus pertinente, ils vont être libres de choisir vers quelle carte ils vont. Donc les cartes qui sont derrière moi peuvent décider de se mettre derrière celle-là, ou derrière, ou les autres venir là. Une fois que c'est fait, vous allez former un groupe, alors il se peut qu'il y ait égalité, ben vous essaierez de vous départager, il faudra former un seul groupe. Une fois que ce groupe aura été formé, il sera plus conséquent, vous irez vers un autre groupe plus conséquent, et vous referez le jeu jusqu'à ce qu'on n'ait plus que 4 propositions dans la salle. Ok ? Je vous laisse vous auto-organiser, c'est le printemps agile, c'est parti. Allez, c'est pas très grave, on va s'arrêter là, je vais récupérer les cartes qui auront été le plus choisies, les plus pertinentes, celles dont c'est pas le cas, vous les gardez pour vous. Hop, hop, je prends. Ok, alors, je vous lis ce que vous avez priorisé. Avec la justesse ou pas de la priorisation collective, en tout cas, je n'ai pas la prétention de vous dire que c'est ça qu'il faut faire, c'est vous qui l'avez décidé finalement. Donc une école qui serait une des caractéristiques d'une école agile, ce serait ouverte sur le monde, bienveillante et proche de la nature, durable. Chouette. Une école où l'élève passerait avant le programme. Ça, on l'a tous entendu. Non, non, le programme a peu d'importance, ce qui compte, c'est le bien-être. L'intelligence collective. Prendre en compte les besoins et envies de chacun sans aucun préjugé. Participatif avec respect de chacun et sans contrainte. Après, j'en ai deux qui n'ont pas réussi à se départager pour le coup. Partage, échange, communication, égalité. Donc voilà ce que vous, collectivement, vous avez décidé qui pourrait être les caractéristiques d'une école agile. Alors c'est sûr que Rigidoum, il aurait pu vous donner ce que lui, il envisageait. Mais Agilitoum lui a dit, fais confiance au groupe, tu verras, il sortira quelque chose. Et en général, ce quelque chose est assez pertinent. Donc il ne faut pas grand-chose, en fait, avec la façon dont fait Agilitoum pour que les gens échangent les uns avec les autres et réfléchissent à la pertinence de ce dont ils sont en train de parler. Il existe plein d'outils pour ça. Il aurait pu essayer de mettre en application les valeurs d'Agilitoum aussi en acceptant donc que les réponses qui émergent ne soient pas celles qu'il attendait. C'est vrai qu'en général, ça facilite les échanges. En parvenant peut-être à trouver comment mieux expliquer son approche pédagogique aux parents afin de développer avec eux un climat de confiance et peut-être mieux collaborer. Je fais une aparté. Ma fille qui rentre en CP, première, c'est l'aînée, Elle apprend à lire avec la méthode des alphas. Je vous parle de ça il y a 6 ans. Elle rentre de l'école, elle nous dit, aujourd'hui j'ai découvert le... C'est la fusée. Et la fusée, elle vole. Et quand elle tape une lettre, ça fait fa, ça fait faux, ça fait fi, ça fait fu. Et là, on se dit, ouh, c'est chaud quand même. Première journée de CP, elle apprend à lire en faisant la fusée. Il a fallu presque 3 semaines, en fait, avant la rentrée scolaire et la réunion qu'aurait peut-être permis de nous rassurer, nous parents, sur il y a un vrai fond derrière. Ça a été fantastique, hein, ça a super bien marché. Franchement, les enfants ont adoré, les parents aussi. Mais on a eu ces 2 petites 3 semaines, comme la correction de la copie, qui fait que, ouh là 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 là, parce qu'après, elle est rentrée avec le S. Le... Voilà, elle est rentrée avec Mademoiselle U, machin, et tout. C'était complètement fou. Donc peut-être privilégier effectivement une collaboration plus précoce avec les parents. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre selon vous aussi, j'ai une petite balle de parole du coup, que je donnerai à celui ou celle qui veut bien prendre la parole. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Rigidoum pour essayer de mettre en application encore au-delà de tout ça ce que Agilitum il lui préconisait? Est-ce que quelqu'un a une idée, veut la partager? Je transmets la balle à qui veut. Là, je suis en amphi, vraiment. Première année de médecine. Vous avez une idée? Personne n'a une idée. Ok, c'est pas très grave, parce que moi, je vais avancer. Alors, donc qu'est-ce qui a empêché Rigidoum de mettre tout cela en application, selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas mettre Agilitum en mouvement? La première réponse qu'on a envie de dire tous, c'est l'institution, l'éducation nationale, le mammouth. Ah ça, c'est vrai que tous les Gaulois qu'on est, on aimerait bien pouvoir dire ça. C'est tellement simple. Bah, c'est l'institution. Et puis, en plus, si les valeurs agiles, elles étaient connues par l'institution, ça se saurait, ça, c'est clair. Alors du coup, moi, pour rien vous cacher, hier soir, j'avais préparé une presse, une conf, qui n'est pas celle que je vous fais là, parce que j'ai appelé un pote prof avec qui j'ai discuté de la presse. Il m'a dit, ouh là là, attends, peut-être que tu vas trop vite, peut-être que tu prends pas assez de recul. Je t'invite à découvrir des documents qui sont ceux qui expliquent et détaillent le socle commun de compétences à acquérir par les élèves. Alors, je me suis couché à 2 heures du mat, j'ai épluché tout ça dans un langage très compréhensible, et j'ai découvert des trucs assez intéressants. Socle commun de compétences, cycle 2. Alors, je vais me rapprocher parce que c'est écrit un petit. Coopérer avec des pairs. Mener à bien une activité en dialogue avec d'autres. Coopérer, mais ça, c'est dans l'agilité, c'est le truc ultime, quoi. Donc, c'est bien là. Donc, s'il est difficile d'attendre des élèves qu'ils puissent s'organiser en groupe sans aucune aide ou médiation d'un adulte, des situations nombreuses permettent de vérifier leur capacité à s'entendre avec d'autres et à respecter un engagement au sein d'une activité partagée ou d'une production coélaborée. Alors, moi, ça, j'ai pas beaucoup connu. Bon, j'étais à l'école il y a 20 ans. Mais en tout cas, c'est écrit noir sur blanc. Ensuite, attention, l'évaluation. L'évaluation permet de vérifier que les élèves savent utiliser un registre expressif, acceptent de se soumettre au regard d'autrui et savent regarder avec bienveillance la prestation d'un camarade en situation. Bienveillance. Ça, c'est une des valeurs de l'agilité aussi. Je ne l'ai pas inventé, c'est marqué là. Ensuite, il y a s'exprimer, émotion, opinion, préférence et respecter l'expression d'autrui. Il y a une phrase qui m'a interpellé, c'est faire part de ses émotions dans des situations particulières. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai rarement eu l'occasion de dire je me sens pas bien ou ça va pas, etc. Pourtant, c'est marqué. On pourra s'assurer que les élèves sont capables d'exprimer, de formuler des émotions et des sentiments à l'occasion d'une lecture d'album à contenu moral et civique, de verbaliser des émotions et des sentiments. Alors, ça, c'était le cycle 2. Je me suis dit, tiens, on va aller voir le cycle 3. Cycle 3, qu'est-ce que je trouve? L'ensemble des enseignements doit contribuer à développer la confiance en soi et le respect des autres. Les valeurs de l'agilité, c'est exactement ça. Comment je fais grandir mon équipe, comment j'instaure la confiance pour que ça marche mieux, comment je me respecte. Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer l'efficacité des apprentissages et doivent également contribuer à faire acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l'aide d'outils numériques, ainsi que la capacité de réaliser des projets. Là où je m'étonne juste, c'est qu'aujourd'hui, dans mon travail au quotidien, quand j'arrive dans une équipe d'adultes, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont sauté la case. La plupart des adultes, on n'est pas du tout équipés pour collaborer, pour coopérer. Voilà, hier, du coup, je me suis beaucoup questionné là-dessus. Cycle 4, ce que je lis, la vie au sein de l'établissement et son prolongement en dehors de celui-ci est l'occasion de développer l'esprit de responsabilité et d'engagement de chacun, celui d'entreprendre et de coopérer avec les autres. Encore une fois, on nous rappelle que l'école, ça sert à ça. Ou que ça devrait servir à ça. Pour que l'élève accepte des démarches où il tâtonne, prend des initiatives, se trompe et recommence, il est indispensable de créer un climat de confiance dans lequel on peut questionner sans crainte et où il disparaît la peur excessive de mal faire. Alors là, dans l'école de Rigidoum, je ne suis pas sûr que Dylan il reprenne la parole un jour pour essayer de dire « j'ai une idée ». Je ne crois pas que ça viendrait. Les compétences évaluées régulièrement et validées en fin de cycle leur permettront de s'épanouir personnellement, de poursuivre leurs études et de continuer à se former tout au long de leur vie, ainsi que de s'insérer dans la société et de participer comme citoyen à son évolution. Vu la façon dont Rigidoum il a parlé à Dylan, il est très peu probable que Dylan y développe les compétences nécessaires à s'insérer correctement dans la société. En tout cas, moi, j'ai un sérieux doute. Pourtant, c'est écrit. Et du coup, j'en suis venu à me dire, comment ça se fait que cette institution, l'éducation nationale, un système dans lequel on est tous passés, n'est pas finalement si ouvert à écouter Agilitum. Alors c'est simple, hein, le truc de base, on se dit, bah oui, c'est le mammouth, on nous l'a dit, c'est comme ça, c'est posé, ça ne bouge plus. Mais l'institution, il y a plein de choses qui tournent autour d'elle. La première, c'est la politique. Chaque nouveau ministre a envie d'une petite loi qui va marquer le fait qu'il a été là à un moment. Les décisions qu'on prise, des fois, elles sont hyper décorrélées de la réalité terrain. Donc l'institution, elle fait souvent qu'appliquer des décisions politiques. Alors les décisions politiques, elles pondent des lois, des textes, et ensuite, une fois que ça c'est fait, l'institution, elle répond des lois ou des textes, comme le socle commun de compétences, etc., qu'elle diffuse ou pas. Après, il y a les médias aussi qui peuvent avoir un impact. Les médias, par exemple, dès qu'il y a une loi qui passe, il y avait une grosse journée de mobilisation hier, ben les médias, c'est aussi un influenceur, dans un sens ou dans l'autre, en tout cas, ils ont un impact sur la capacité de l'institution à écouter Agilitum. Derrière, il y a également les syndicats. La fonction d'enseignant est très syndiquée, avec les bons côtés, avec les moins bons, qui peuvent bloquer le système. Ensuite, il y a tout le personnel de l'éducation nationale. Il y a d'abord les inspecteurs, les conseillers PEDA, etc., etc., qui ont aussi leur façon de faire, qui ont été formés à une certaine époque, qui essaient de développer des trucs, mais qui sont des fois bloqués par d'autres personnes. Ces autres personnes, ça pourrait être, par exemple, les enseignants. Voilà. Est-ce que finalement, les enseignants sont tous prêts à écouter Agilitum, à essayer et tester Agilitum? Parce que derrière, il y a les parents. Et les parents, c'est les premiers à venir gueuler sur les enseignants. À dire, bah non, mais là, c'est pas possible ce que vous faites. Ça va pas, moi, mon fils... Ma fille, elle ne va pas apprendre à lire en faisant des... Ça ne va pas marcher. Il y a aussi les associations de parents d'élèves, parce que ça, elles sont assez puissantes aussi, qui peuvent être les premières vent debout à dire « Non, ça, c'est pas possible, on ne veut pas, ça ne s'est jamais passé comme ça, pourquoi on ferait autrement ?» Et puis derrière, en plus, il y a des élèves. Et ce matin, c'était assez drôle, je finissais de préparer les quelques slides hautement qualitatifs, dans le couloir qui est en bas. Et donc, il y a pas mal d'élèves qui sont là aujourd'hui. Et alors, s'il y en a qui trouvent leur bonheur et qui vont directement dans les salles et qui kiffent, j'en ai vu pas mal aussi qui étaient là à dire non, regarde-les, laisse tomber, quoi. Je veux dire, c'est tout, ça fait pitié, quoi. Ils sont là à jouer avec des babales et des trucs comme ça. Il y en a plein qui sont convaincus, il y en a plein qui ne le sont pas, en tout cas, dans ceux qui étaient là aujourd'hui. La même chose en classe. On pourrait apporter une nouvelle approche. Ben, les élèves, c'est aussi les premiers que les enseignants ont devant les yeux, et qui acceptent ou pas de jouer le jeu, qui acceptent de se lever pour aller échanger les uns avec les autres, qui acceptent de ne pas se mettre forcément dans le fond de la classe pour peut-être interagir différemment, pour essayer d'apprendre différemment. Donc, c'est loin d'être aussi simple qu'on voudrait, et que j'aurais pu au départ, moi, le penser, en me disant, bah ouais, c'est l'institution, de toute façon, on nous le répète tout le temps, voilà, c'est l'institution, ça ne veut pas bouger. En fait, c'est un vrai système. L'école, elle ne forme pas l'agilité, mais ce n'est pas l'institution qui est la seule responsable de ça. Tous les acteurs qui sont autour, et je pense que j'en ai oublié un bon paquet, ils ont tous leur impact, positif ou négatif, sur la façon dont l'école peut ou pas, forme ou pas, au principe de l'agilité. Du coup, ça m'amène à vous parler d'une chose. J'ai fait une conf au mois de novembre où je me questionnais pour la première fois là-dessus. Moi, je suis intervenu auprès de, je vérifie, auprès de pas mal d'écoles en tant que enfin, intervenant pédagogique en techno pendant 4 ans dans pas mal d'écoles des Pays de la Loire. J'ai vu un peu plus de 4 500 enfants de la petite section au collège. Et le but, c'était d'apprendre des notions de techno difficiles avec des Lego. Ça a bien fonctionné, j'ai même réussi à avoir l'agrément, etc. Après 18 mois d'inspection avec 3 inspections d'un conseiller PEDA. Puis après 4 ans, ça s'est un peu étiolé pour pas mal de raisons. Mais j'avais gardé en tête une chose, c'est que quand on présente une autre façon de faire aux élèves, eh ben, la plupart du temps, il y a 100% des élèves qui sont bons et pour lesquels ça fonctionne. Un petit exemple, on étudiait beaucoup la réduction, la démultiplication d'engrenages. C'est des notions super compliquées à apprendre. On apprend qu'une grande roue fait tourner une plus petite dans un sens ou la plus grande petite dans... Et souvent, on apprend ça sur le papier avec les élèves. Et c'est difficile, ceux qui n'arrivent pas à conceptualiser le truc, ils comprennent pas. On leur mettait des Legos dans les mains, tous individuellement, un moteur, des roues dentées, des roues, ils fabriquaient une voiture. On commençait par des roues dentées de taille identique, puis après on les questionnait. Comment on pourrait faire avancer la voiture plus vite, moins vite, etc. Et on les amenait à changer par eux-mêmes les tailles de roues dentées, à voir ce qui se passait. Je peux vous assurer que chaque enfant apprenait dans son coin, en classe complète, et qu'à la fin de la séance, 100% des enfants savaient qu'une grande roue, ça allait faire tourner une plus petite beaucoup plus vite, que la voiture, elle irait vite, mais qu'elle n'aurait pas de force, elle n'aurait pas de couple. Parce que c'est pas dur, ça en testait à chaque fois avec eux. Donc ça a bien fonctionné, mais ça m'a lassé, pour le coup, parce que là c'est l'institution qui commençait à me poser problème. Et du coup, j'ai lâché l'affaire, je me suis mis à bosser avec des adultes, parce que les enfants m'ont montré que, en fait, on pouvait apprendre en jouant. Et que c'était intéressant. Après plusieurs années à bosser avec des adultes, donc en novembre, j'ai commencé à me questionner sur finalement est-ce que les valeurs agiles elles sont vraiment utiles à l'école, est-ce qu'elles sont utilisées, est-ce qu'elles sont connues. Et puis j'ai lancé un appel à des gens qui font mon métier, donc de la facilitation en entreprise, des coachs, en leur disant est-ce que nous, en tant que membres du système, je vous rappelle, on est des éléments du système, et comme c'est un système, si nous on fait quelque chose, qu'on apporte quelque chose de positif au système, bah, le système va bouger, immanquablement. En bien, en mal, je ne sais pas. En tout cas, on a la possibilité encore d'agir. Moi, en tant que parent, en tant que professionnel de l'accompagnement, je peux faire bouger quelque chose et peut-être essayer d'amener ce qui, moi, me semble être important. Et du coup, je lance cet appel-là. Il y a deux personnes qui m'ont répondu. Une est dans la salle ici. Elle s'appelle Steve Evers. Il est assis au deuxième rang. Et une femme qui s'appelle Perrine Baudimont, qui ne peut pas être là avec moi. Et on s'est questionné, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce qu'on peut apporter au système? De quoi il a besoin, qu'est-ce qu'on sait faire. On s'est dit, tiens, on va proposer une formation gratuite à tous les enseignants qui le désirent, où pendant 2 jours, on va leur partager tous nos outils d'intelligence collective qui permettent de favoriser l'apprentissage. Voilà. Notre intention, c'est que ce soit totalement gratuit pour eux, qu'ils viennent et qu'ils partagent dans un cadre sécurisé que nous, on va fixer. Cette formation, elle a réuni 14 enseignants volontaires de la moyenne section. Jusqu'au niveau université. Et ça s'est passé dans un collège à Télocher, près du Mans, début février. Donc c'était un espèce de petit sas. On était un peu à la campagne, dans un bahut qui a plutôt des locaux assez sympas, avec un amphi, mais qu'on n'a jamais utilisé en tant qu'amphi, parce que finalement, on n'était pas là pour donner des leçons. La seule chose qu'on voulait, c'était partager avec les enseignants. On a appris énormément de choses. On a donné, je pense pas mal, Steve pourra vous le confirmer, mais on a reçu, on a appris des choses. La chose qui, moi, m'a le plus marqué aujourd'hui, alors qu'on avait 14 volontaires plutôt ouverts là-dessus, c'est la détresse des enseignants au quotidien. C'était hallucinant. On a fait un premier tour de table, entre guillemets, avec les chaises, mais il n'y avait pas de table, sinon ça casse la communication, pour réfléchir à finalement, c'est quoi la collaboration au quotidien dans votre classe? En 10 minutes, il y a un prof qui a fondu en larmes. On avait débuté la formation depuis une demi-heure. Et à partir de là, ça a vachement délié les langues. En tout cas, pendant 2 jours, on a vraiment réalisé à quel point un enseignant, il est tout seul, la plupart du temps, dans sa classe, avec des élèves à qui on n'a jamais appris à renvoyer du feedback. Donc l'enseignant, il ne sait pas si ce qu'il fait, c'est bien ou c'est mal. On les a questionnés du coup sur... Qu'est-ce qui fait que l'année d'après, vous modifiez vos cours? Pourquoi un prof modifie ses cours? C'est vrai, nous, nos clients nous disent, bah ça, ça m'a plu, ça ne m'a pas plu. En tant qu'élève, je ne suis jamais allé voir un de mes enseignants en disant, oh, ça, j'ai kiffé votre cours, la façon dont c'était fait. Et donc, ce qui fait qu'ils changent les cours en général, pour les profs qui étaient là, c'est leur motivation. Juste pour ne pas perdre leur motivation, parce que faire la même chose d'une année à l'autre. Ils nous disaient, mais les élèves ne peuvent pas nous renvoyer de feedback. Ah si, on pourrait apprendre aux élèves à renvoyer du feedback. Un feedback qui permette d'avancer. Donc plutôt un feed forward, ancré dans le futur. C'est j'ai aimé ton cours, ou ça, j'ai pas compris, et la prochaine fois, je t'invite à. Et permettre peut-être d'envisager les choses différemment. En tout cas, c'était 2 jours qui étaient juste fantastiques avec, avec ces profs-là. On a bossé, on a pleuré, on a ri. On a été nourrir les poules, parce qu'il y a des poules dans le collège où on était. Il y a un pan, etc. C'était notre petite sortie. On a bossé au soleil, tranquille, dans la cour. Chacun a bossé dans un petit coin. Il y a une photo de 2 jeunes élèves avec des chevaux. En fait, dans ce collège-là, ils ont monté un projet qui s'appelle Équilibre. Et ils ont introduit des chevaux dans la cour de récré de l'école. Et il y a un groupe de profs qui a pris des élèves en difficulté et qui les a amenés à réfléchir à comment peut-être mieux se comprendre par le fait d'aborder les animaux. Et donc, il y a beaucoup de sessions qui se font grâce aux chevaux. Ils n'étaient pas là quand on y était, mais j'ai mis la photo parce que ça avait du sens pour moi. Et voilà, en tout cas, cette journée-là, on a eu du mal à la monter parce qu'on a eu du mal à communiquer. On n'a pas les bons réseaux, clairement. On a essayé de passer par l'institution, qui n'a pas été forcément tout à fait d'accord avec notre démarche. Donc, pour être transparent, c'était gratuit. On facturait 50 euros pour payer les frais de repas. Et on nous a répondu, ben non, c'est pas gratuit, c'est 50 euros. Donc on a répondu que la prochaine fois, ce serait gratuit, qu'en plus, on préparerait à bouffer pour les gens qu'on forme gratuitement. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une vraie volonté de leur part et de vraies interrogations à se dire, ok, super, mais comment je vais faire avec tout ça demain dans ma classe? On n'a pas forcément trouvé les réponses tout de suite. En tout cas, ce qu'on leur a proposé, c'est de continuer à bosser avec eux et se dire, ben nous, on peut vous aider et faire des petits pas. Essayez déjà un des outils qu'on a découvert, puis on verra ce que ça donne. Et c'est juste ancré que peut-être on peut envisager que l'école soit un peu plus collaborative au quotidien. Donc on voulait le faire avec les enseignants parce que, bah déjà, au vu de la détresse détectée, en tout cas, ça nous a conforté dans l'idée que c'est un public qui est très en demande et auquel on peut apporter beaucoup. Et on n'était pas là dans le jugement ou quoi que ce soit. On a mis à disposition tous nos outils. Ils sont repartis avec toutes les trames de tous les outils qu'on a pu utiliser. Et c'était vraiment ça. On est sorti de là un peu sur notre nuage avec Steve et Perrine parce que c'était super riche. Et on avait en tout cas l'impression qu'avec les 14 enseignants qu'on avait là, on allait peut-être aider un gamin un jour à ne pas devenir Dylan. Et ça, quand on est sorti de là, rien que pour ça, on était plutôt contents. La deuxième chose que je vais vous présenter, c'est un truc que j'ai vécu la semaine dernière avec les 40 élèves qui sont sur la photo du centre. Alors, il n'y en avait plus tout à fait 40. C'est 40 élèves de Centrale Nantes, Audencia, qui est une business school, et d'une école d'archi, qui sont réunis sur 2 jours sur une thématique, et j'animais une thématique 1 plus 1 égale 3, le pouvoir de l'intelligence collective. Et là, on a affaire à des bêtes de concours. Hein. Ils sortent tous de Mathsup, MathsP, gros concours. Voilà, faut être le premier, il faut les places qu'on veut. On a eu face à nous des élèves qui sont venus, certains vraiment avec envie, d'autres contraints, d'autres on leur a imposé ce cours-là, ils n'avaient pas choisi. Et au bout de 2 jours, à réfléchir à comment finalement on peut peut-être collaborer au quotidien, chose qu'ils ne faisaient jamais et qu'ils avaient bien à l'esprit. On est tous d'accord, c'est cool de collaborer, mais on n'a pas les outils, on ne sait pas comment faire, etc. Au bout de 2 jours, ils devaient restituer en amphi face à tous les autres élèves, les enseignants, etc., sur ce qu'ils avaient pu faire. En tant qu'intervenant, on nous avait donné un cadre très strict. Ils auront entre 5 et 10 minutes. Voilà, il faudrait qu'ils disent ceci, cela. Bon, ben nous, on a dit tout de suite qu'en fait, on ne savait pas ce qu'ils allaient présenter. On leur a fixé 2 contraintes. La première, c'est à 15h pour 16h30, on leur a dit « La seule chose qu'on vous demande, c'est de raconter de façon authentique ce que vous avez vécu avec nous pendant les 2 jours. La deuxième, c'est de contaminer le reste de l'amphi. Pour la troisième, vous avez notre confiance absolue dans ce que vous allez produire. » Ils sont montés sur scène les 23 et ils ont cassé la baraque. C'était juste extraordinaire de voir 23 jeunes gens qui était capable d'entraîner tout le reste de l'amphi, de montrer « Waouh, on a compris, il se passe un truc. » C'est tous des futurs managers. Alors on a planté une graine, hein, peut-être qu'elle mettra 10, 15, 20 ans à germer, peut-être qu'elle germera jamais. Mais en tout cas, je suis assez persuadé que dans leur esprit, à eux, il y a un truc qui peut être planté et qu'à nouveau, la collaboration ça peut être envisagé et qu'on n'est pas obligé d'être dans un mode de compète tout le temps. Je suis sorti de là bouleversé, plein d'espoir, et je me dis, waouh, la génération qui arrive, c'est cool s'ils arrivent à prendre conscience de ça à 20 ans et pas à 40 comme nous en entreprise, voire plus tard en disant, ah, je me suis usé à lutter contre un truc contre lequel je ne pouvais rien faire. On peut tous agir à notre niveau, en tout cas. Ça, c'est clair. Je vais vous présenter une toute petite vidéo de 3 minutes. Et après, on finira par un petit jeu, parce que là, je sens que je vais vous perdre, sinon vous êtes tous assis, et c'est pas trop ma philosophie. Tac. C'est un TEDx qui dure 2 minutes 40 pour le coup, que certains connaissent certainement. C'est comment on peut insuffler ou déclencher un mouvement. Voilà, je ne la connaissais pas jusqu'à hier soir, j'ai découvert hier soir, et j'ai envie de dire que Steve Perrin et moi, on. Voilà. On serait peut-être les marginaux dont ils vont parler. Je vais.
So, ladies and gentlemen, at TED, we talk a lot about leadership and how to make a movement. So, let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course, you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts. Three is a crowd, and a crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come two more people, and immediately after, three more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that, TED. Thanks.
J'ai pas la prétention d'être le marginal torse nu, mais vraiment, avec Steve et Perrine, je pense que on aimerait que la démarche qu'on a lancée, on puisse la partager avec vous en toute humilité à un niveau le plus horizontal possible. Et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On est tous des éléments du système. On peut tous agir. On a nommé notre formation, nous sommes le système. Parce qu'effectivement, si on fixe un cadre bienveillant, que l'intention est bien fixée, qui est celle de partager au maximum, de se dire qu'à un moment, on peut peut-être faire réfléchir et travailler autrement les élèves. Impliquer peut-être plus certaines valeurs de l'agilité, il y a certainement quelque chose de positif à tirer du fait de croiser les univers. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants qui connaissent très peu le monde extérieur. Donc on a invité tous ceux qui étaient à la formation à venir avec nous en entreprise et venir rencontrer finalement les entreprises qu'on accompagne et puis la réalité des métiers auxquels ils forment les élèves et les citoyens de demain. C'est un truc vraiment important, ça. S'il y a des enseignants, je vous invite à ça. Il y a plein d'entreprises qui seront ravies, je pense, de vous ouvrir leurs portes. Venez passer une journée, pas celle où vous suivez un stagiaire qui, de toute façon, n'aura pas grand-chose à faire derrière un PC, mais celle où vous faites un vie-ma-vie avec un employé et que vous voyez ce qui puisse se passer. Donc Steve, qui est assis là, bien caché, et moi, on est à votre disposition pour parler de ça. Et juste pour conclure, je vous propose une petite activité, un petit jeu, mais je vais vous remettre debout et je vais vous demander de vous mettre en binôme avec quelqu'un, s'il vous plaît. Et il faut de l'espace, donc occupez l'espace. Vous pouvez rester dans les allées pour celles et ceux qui veulent, mais... Steve, je te garde avec moi. Ok, alors, je vais vous demander de vous mettre face à face avec votre binôme, s'il vous plaît. Vous allez faire comme Steve et moi, c'est-à-dire on ancre bien les pieds dans le sol, on les pose, hein, des vrais clous. On met nos mains face à face, paume contre paume, donc les deux bras, hein, je vais en faire qu'un seul. Et je vais compter jusqu'à 10 à haute voix. Votre objectif pour gagner, c'est de faire bouger le pied de votre partenaire avant que j'ai dit 10. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, stop. Levez la main ceux qui ont gagné. D'accord. Ok. Très bien. Je vous montre quelque chose. Alors, ça va être pénible avec la table. Je crois qu'on va hacker le bazar. Hein. Attention, attends. On vous montre quelque chose. Vous auriez peut-être pu vivre ça. Et si finalement, on passait d'un monde où on est en compète inconsciemment en permanence à un monde où collaborer, ça permettrait à tout le monde de gagner. Voilà, je finis là-dessus. Très bonne journée.